Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Après notre émission sur la parentalité et la place de l'homme durant la grossesse, nous abordons aujourd'hui le thème de la femme enceinte dans la tradition ancestrale ayurvédique. Dans cette première partie d'émission, nous parlerons de l'importance de l'alimentation nécessaire au bon développement du bébé, avec à l'appui des conseils à suivre, de la pratique du yoga pendant cette période de vie. Et puis, en seconde partie, j'aurai le plaisir de recevoir par téléphone Aurélie Cross Vikrama, doula et formatrice de massage ayurvédique pour femmes enceintes et bébés à Paris. Selon l'Ayurveda, l'hygiène de vie de la femme est sacrée pendant la vie intra-utérine du bébé. Pendant les 9 mois de grossesse, l'utérus sera son cocon et son seul repère. Il est donc primordial qu'il s'y sente bien. C'est la première chambre qu'il est important de préparer en conscience et même plusieurs mois avant la conception. L'Ayurveda préconise fortement ce que les Indiens appellent une alimentation sattvique, c'est-à-dire une alimentation variée, saine, fraîche et qui apportera à la maman une énergie harmonieuse et sereine et au bébé une constitution robuste et une énergie vitale vigoureuse. Alors, quelle alimentation peut-on conseiller pour la femme enceinte? Eh bien, ses besoins nutritionnels seront à adapter en fonction de la force de son feu digestif, que l'on appelle Agni. En sachant qu'au cours des 9 mois de grossesse, le bébé prendra davantage de place, donc sa fonction digestive risque de connaître de toute façon quelques perturbations. Alors l'Ayurveda a bien sûr son lot de restrictions alimentaires, mais il n'est pas aussi catégorique que la science occidentale qui interdit de manger de la salade et qui recommande de laver ses légumes au vinaigre. Et surtout, l'Ayurveda offre de nombreuses possibilités avec effectivement certains aliments à éviter et puis d'autres à préconiser. Par exemple, on évitera les produits industriels, les aliments trop lourds à digérer, les aliments raffinés, les goûts trop prononcés, les conserves, les restes, ce qui de prime abord paraît assez évident en fait. Et l'Ayurveda offre aussi une grande diversité alimentaire. On peut manger vraiment de tout en favorisant par exemple les laits végétaux, les légumes à feuilles vertes, certaines céréales comme le millet et l'avoine, des oléagineux, des fruits à consommer plutôt en dehors des repas, etc. Et puis, il y a aussi, donc, naturellement, des aliments qu'on va plutôt réduire ou éviter, type le piment, la moutarde, l'huile de lin, le chocolat noir, etc. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une approche, en fait, où c'est pas une interdiction de consommer certaines choses. Par exemple, en termes de légumes, on va déconseiller, en fait, l'aubergine, parce que l'aubergine contient de la nicotine. Mais on peut tout à fait en manger une fois, deux fois. Au cours des 9 mois, ça va pas être dramatique. Il va pas y avoir des conséquences sur le développement du bébé. Par contre, on évite de manger de l'aubergine avec du piment. Et puis forcément, par exemple, un verre de vin rouge à chaque repas. Ça, c'est évident. Donc, encore une fois, on est vraiment dans une voie de juste milieu où on va plutôt chercher l'équilibre alimentaire. Et puis il y a aussi un petit clin d'œil pour les personnes végétariennes. Il faut savoir que 90% de la population indienne est végétarienne. Donc c'est pas une nécessité de manger de la viande pendant la grossesse. Si on est végétarien et qu'on n'en mange pas, bah, c'est très bien aussi. Il y a plein de légumes hein, pour pallier aux protéines. Et puis, ça peut aussi arriver qu'on soit végétarien, enfin en l'occurrence végétarienne, et puis, on tombe enceinte et bah, là, on a des envies de viande. Bah, après, voilà, il y a des choses qui sont aussi importantes à respecter. Et puis, là, voilà, là, ça fait partie aussi de l'écoute de ses besoins. Et ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ses envies, de ses besoins. Et donc, pour ne prendre que l'exemple de la viande, même si ce n'est pas un besoin vital pour le bébé, donc il y a plein d'autres aliments, encore une fois, qui apportent des protéines. La grossesse, c'est vraiment une période où tout peut arriver et qui va souvent à l'encontre des principes qu'on peut avoir. Donc si on est végétarien et que d'un coup, au bout du troisième mois, on a envie de manger un steak haché, on mange un steak haché, c'est pas la fin du monde. Voilà, faut aussi s'assouplir un petit peu avec ces principes. Le tout, c'est encore une fois de ne pas se faire violence et vraiment d'être à 3000% en accord avec son ressenti. Si vous voulez consulter la liste des aliments préconisés par l'Ayurveda, parce que naturellement ils sont très nombreux, je vais pas tout citer pendant l'émission. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi des recettes contre les différents troubles liés à la grossesse, comme les nausées, les coliques, la constipation, les insomnies, les difficultés respiratoires, que des trucs sympas. Mais voilà, il y a plein de recettes, donc je vous invite aussi à consulter le site internet www.treehome.fr, donc treehome.fr, et donc c'est dans la partie blog, il y a un article dédié aussi à l'alimentation de la femme enceinte, et je vous invite vraiment à le consulter si vous voulez avoir plus de détails sur l'alimentation. Alors, l'hygiène de vie, outre l'alimentaire, l'alimentation, pardon, l'hygiène de vie passe aussi par la pratique physique. Donc naturellement, on peut trouver son équilibre. Moi, je vais vous parler du yoga, parce que c'est la discipline que j'enseigne. Donc qu'on ait déjà pratiqué ou pas, on peut vraiment se rendre à une séance à n'importe quel moment. Encore une fois, c'est très très important d'être à l'écoute de son corps. Il évolue constamment et les besoins seront différents à chaque stade de la grossesse. Donc le yoga, on peut le commencer n'importe quand, même faire un cours une semaine avant d'accoucher, ça vaut vraiment le coup. La pratique, elle reste très personnelle. Moi, j'ai connu des femmes qui avaient besoin de transpirer et de se tonifier, quand d'autres avaient besoin de douceur et d'étirement. Ce que je recommande, c'est de ne pas se mettre de pression. Faut pas se mettre la pression à vouloir absolument, par exemple, sculpter son corps, tout simplement parce que c'est pas le moment pour faire ça. Son corps, on le prépare, on le sculpte avant, et puis si on l'a pas sculpté avant, ou si on l'a pas préparé physiquement à recevoir un bébé, c'est pas la fin du monde non plus. On a aussi 9 mois pour s'adapter et puis pour se faire du bien. Pendant cette période de grossesse, on va plutôt chercher des postures d'ouverture de hanches, la détente aussi du dos, en fonction de chaque femme. Il y a des femmes qui auront mal au dos, d'autres pas. On peut aussi travailler sur la visualisation de son bassin, surtout sur les derniers mois. On peut visualiser une lumière, on peut visualiser le passage. Quelle est la représentation qu'on se fait de son bassin aussi. Parfois, on n'y pense pas, et puis quand on y pense, on voit des nœuds, on voit des choses qui obstruent un petit peu le passage. Donc, on peut aussi venir travailler en relaxation, par exemple, sur cet aspect d'ouverture. Et puis, renouer aussi avec les aspects de sa féminité, parce qu'une grossesse, ça éveille aussi beaucoup de choses. Et ça, c'est le lot de chacune, et chacune a son histoire. Et on va venir, on vient vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, c'est vraiment d'aller accompagner dans le chemin personnel en fait de la personne, même parfois en cours collectif. Cette pratique, c'est aussi un moment très intime pour se lier d'amitié entre guillemets avec son bébé et puis pour communiquer avec lui. lui faire sentir sa présence. Donc j'invite vraiment les futures mamans à la douceur, à ralentir pendant cette période. Après, bien entendu, libre à chacune. Hein, si chacune a besoin de se tonifier, pourquoi pas aussi, hein, parce qu'un accouchement, c'est quand même physique. Mais voilà, moi j'invite vraiment à la douceur, à ralentir, à s'introspecter aussi, à beaucoup méditer. C'est beaucoup des phases d'introspection aussi à la grossesse, hein, c'est une gestation, donc on n'est pas là à courir dans tous les sens. Et puis, faut pas s'inquiéter pour ça, parce que courir dans tous les sens, ça, vous aurez bien le temps de le faire après. Allez, on marque une toute petite pause musicale avant de retrouver Aurélie Cross Vikrama par téléphone. Cross Vikrama est avec nous par téléphone. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors tu es thérapeute en Ayurveda, spécialisée en santé de la femme, notamment autour de la maternité ayurvédique. Tu accompagnes de la préconception à la période postnatale avec des consultations en hygiène de vie, en nutrition, soutien des plantes et pratique du massage ayurvédique. Et tu es également yoga doula, tu organises des ateliers de yoga kundalini prénatal, ainsi qu'un soutien affectif, émotionnel et d'information auprès des futurs et jeunes parents. Alors le massage, inévitablement, apporte beaucoup à la future maman, mais est-ce que le bébé bénéficie également des bienfaits du soin ? Qu'est-ce que ça lui apporte à ce bébé ?
Le massage déjà en soi est une forme un peu de langage non verbal. Donc la femme étant massée est déjà beaucoup plus dans une forme d'introspection de ses ressentis, ambiance dans son corps, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit de la grossesse au quotidien. Et donc cette introspection a déjà comme premier impact de nourrir l'enfant. C'est-à-dire qu'on favorise la circulation d'énergie, de prana, par déjà les mains qui massent, parce que c'est la zone du corps la plus chargée en prana. Donc déjà, moi, le fait de masser, je transmets le prana. La femme recevant ce prana, forcément l'enfant en bénéficie. On va dire que prana étant l'énergie vitale, c'est ce qui va être le souffle pour soutenir l'enfant dans sa croissance, bien sûr physique, mais surtout sa croissance spirituelle, parce que c'est un cheminement d'incarnation, de retour vers la Terre, qui peut que être soutenu par cette circulation harmonieuse de prana. Donc circulation du prana, c'est déjà, je pense, très important pour le bébé.
Donc ça l'aide en fait à l'incarnation en fait aussi.
Alors, ça aide. Alors, effectivement, dans les 3 mois, après les 3 mois de grossesse, le processus d'incarnation est déjà bien ancré. Donc, on va dire que c'est un processus qui se fait naturellement, mais qui n'est pas forcément toujours très, très joyeux pour l'âme, selon le choix qu'elle fait de revenir sur Terre. Des fois, ça peut être très douloureux, il peut y avoir des angoisses, des peurs qui refont surface du retour vers la Terre. Et c'est vrai que dans la circulation du prana et dans la bienveillance qu'il y a de la personne qui donne le massage, c'est un peu comme une dose de sécurité affective, d'amour, de bienveillance qui est transmise et qui peut aussi aider, conforter l'âme dans son chemin. Et forcément, c'est au travers des mains, de ce que donne la masseuse, mais c'est aussi, bien sûr, de ce que vit la mère étant elle-même massée. Mmh. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance de bienveillance, quand je suis amenée notamment à enseigner le massage femme enceinte, de bienveillance et d'amour inconditionnel, encore plus que quiconque, puisqu'il y a cette transmission à l'enfant qui fait ce chemin. Mmh. Et ça lui donne déjà des bonnes bases pour l'arrivée sur Terre, qui commence déjà par le processus de l'accouchement et cet engagement à venir rejoindre la Terre. Ça y contribue, bien sûr.
Oui. Est-ce que c'est un moyen aussi de communiquer avec le bébé, un petit peu, tu sais, comme l'autonomie, voire peut-être même de jouer avec le bébé? Est-ce qu'il y a un échange, voilà, qui se crée comme ça aussi, entre conscient ou inconscient, hein, mais on va peut-être plus parler consciemment, un échange qui se crée entre la maman et son bébé lors des massages ou même à la suite, hein, des massages?
Ah oui, oui, bien sûr, c'est souvent les mères vont avoir des ressentis différents de comment le bébé va avoir bougé, comment... Des fois, il y a des bébés qui bougent beaucoup, parfois qui ne bougent pas beaucoup, qui sont très calmes pendant le massage. L'effet ne va pas forcément se faire ressentir des fois tout de suite, mais avec le recul, les jours, les semaines qui suivent, naturellement, elles sentent qu'elles ont besoin d'être plus ancrées, plus en introspection. Et effectivement, du coup, les bienfaits vont se faire ressentir sur le long terme. Après, pendant le massage, alors, indéniablement, dès que je masse le ventre, de toute façon, il y a toujours... Il y a déjà l'intention que je pose quand je masse le ventre, surtout le troisième trimestre, hein, où je travaille un peu plus le ventre. Et après, bien sûr, il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles. Et là, on a un utérus qui va doubler de volume, qui s'étire, qui grandit. Et oui, bien sûr, ça crée un magnétisme. Il y a un magnétisme dans les mains. Donc, c'est encore une fois l'intention qu'on y met. Et tout comme l'autonomie, j'invite après beaucoup les mères déjà à s'automasser au moins tous les jours le ventre, le bassin, le sacrum, ce qui est le plus sollicité pendant la grossesse, et d'avoir l'intention, c'est pas juste je masse, je m'applique ma petite crème anti-vergeture, je me masse avec voilà une huile qui est en général beaucoup plus qui pénètre beaucoup plus facilement que la crème, une huile végétale simple, l'huile de sésame, l'huile reine en Ayurveda, on la fait chauffer un petit peu et je me masse certes pour l'élasticité de la peau, mais surtout aussi pour me nourrir mon enfant au travers du toucher. Donc oui, c'est une connexion avec l'enfant et l'enfant sait y répondre. C'est bien posé comme intention.
Alors, tu masses également, du coup, les bébés. J'allais te demander déjà quelle est l'importance des massages pour les bébés. Mais enfin bon, je pense que tu y réponds déjà même à travers, hein, à travers le massage de la femme enceinte. Du coup, est-ce que les bébés dont la maman a été massée pendant qu'ils étaient in utero, pendant qu'ils étaient dans le ventre, est-ce que finalement, quand ils sont remassés physiquement, ils reconnaissent, ils se retrouvent. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose de particulier peut-être quand t'as massé la maman et puis que tu masses le bébé après, quoi, quand il est arrivé?
Ouais. Dans ces ateliers, effectivement, souvent c'est des bébés qui sont beaucoup plus réceptifs. Il y a bien sûr l'intention qu'on met quand on a une femme enceinte et aider le plus possible donc l'enfant dans ce chemin de réincarnation. Après, c'est vrai que on sait que l'enfant, quand il naît, déjà il oublie une bonne partie de sa vie antérieure. Donc ce qui va lui rester, c'est les sensations in utero. Donc c'est effectivement ce massage. Et ce que je dis souvent, c'est que le massage, c'est un petit peu comme le principe du continuum. Donc, ce qu'il aura vécu déjà in utero, parce que c'est pas quelque chose de complètement inconnu pour lui, il va forcément être beaucoup plus sensible après à la naissance. Donc, s'il a été massé, déjà, il y a eu une première approche, bien sûr, ce sont des enfants qui sont plus sensibles après.
Mmh. Alors, vas-y. Je t'écoute.
Non, je dis, après, il y a masser, parce que voilà, le massage peut de toute façon dans tous les cas réveiller toujours un peu de tension émotionnelle ou physique. Ça va être différent, on va dire, parce que la pression sur le corps d'un bébé n'est pas la même que ce qu'il a reçu in utero dans sa poche de kinamétique. Donc l'intention va être la même, il va la ressentir telle quelle. Après, ça peut toujours faire travailler un peu certaines tensions, et donc ça peut être aussi intense pour un bébé, même s'il a déjà été massé in utero, de se faire masser, mais ça reste dans cette intensité un des plus beaux cadeaux que tu puisses recevoir.
Oui, puis c'est des tensions qu'il faut. Enfin, les parents doivent aussi être avertis de ça, quoi, parce que quand eux, après, ils vont remasser par derrière, ils vont avoir besoin d'avoir cette connaissance que l'enfant, effectivement, évacue aussi ses tensions à travers le massage, comme nous, et que s'il pleure, bien, c'est qu'il y a une nécessité et que ça a besoin d'être accueilli et qu'il a besoin d'être réconforté aussi à ce moment-là, quoi.
Exactement, et c'est plutôt bénéfique et salvateur finalement de pouvoir avoir cette suite du massage pour l'invité, parce qu'il y a la naissance en ce qu'elle est, il y a la période postnatale, il y a les premiers souffles, les premières stimulations, la première lumière, enfin, tout est très nouveau pour un bébé, donc le massage est là pour vraiment le ramener dans sa sécurité intérieure, le sentiment d'être intégré, d'être accueilli, et puis de prendre conscience de son schéma corporel. Et donc oui, bien sûr que c'est une étape essentielle pour ces premiers jours, ces premières semaines sur Terre.
Alors Aurélie, il y a le massage, il y a l'alimentation dont on a parlé en première partie d'émission. Et puis voilà, donc le massage, hein, puis même l'alimentation, hein, qui est en Occident, on y est quand même de plus en plus sensible. Pourtant, l'Ayurveda va bien plus loin, puisqu'il ne dissocie pas l'aspect spirituel, qui fait partie intégrante, hein, de cette science, de l'aspect charnel. Quelle forme, quelle place prend cette spiritualité pendant ce cycle de gestation? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce que les couples vont au temple? Est-ce qu'ils vont prier? Est-ce qu'ils récitent des mantras? Comment on entretient sa spiritualité pendant la grossesse?
Alors, je dirais déjà, en t'écoutant, la première chose qui me vient à l'esprit, pour cet accès à la spiritualité, ou en tout cas que la spiritualité ait une place et qu'elle garde sa place, très important de protéger la femme. La femme enceinte, la protéger de toute source de stress, dans ce qu'on peut lui dire, dans ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut lire, de sources de violence, et que tous ses besoins soient anticipés. Et c'est pas juste du luxe de nourrir une femme enceinte, de lui faire des petits plats, de lui éviter de faire trop d'efforts et d'être épargné de sources de facteurs. C'est un besoin vital, puisque effectivement, plus l'enfant grandit in utero, plus il va occuper de l'espace dans l'aura de la femme. Donc tout ce qu'elle va penser, tout ce qu'elle va digérer par ses cinq sens vont forcément avoir un impact sur l'enfant, qui est lui à la base que au niveau, c'est une âme avant d'être un corps physique. Donc tout est déjà imprégné dès les premiers jours, je dirais, premières semaines de conception. Et donc effectivement, dans le yoga Kundalini que je pratique particulièrement, Yogi Bhajan, qui est donc l'enseignant, le maître de yoga Kundalini, conseille vraiment à la femme de faire des prières très tôt, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, pour déjà alléger, si on peut dire, le karma de l'enfant.
D'accord.
Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante à faire, c'est qu'il dit que les trois premiers mois de la grossesse, lorsque l'âme est encore instable, qu'elle ne s'est pas encore bien incarnée et entrée dans la matière, qui est donc la cellule fécondée, l'embryon, la femme a le potentiel, par ses prières et ses intentions, de modifier le karma de l'enfant. Okay. Ensuite, passer le troisième mois de grossesse, entrer dans le quatrième mois, il y a ce qu'on appelle donc la cérémonie des 120 jours, où là, effectivement, la femme va être entourée de ses proches, de personnes bienveillantes, dans l'intention de réciter des mantras, réciter des prières, des poésies, ça peut être des lectures, ça peut être des chants, ça peut être, voilà, lui préparer des plats, l'orner de bijoux, pour la protéger et souhaiter, en fait, la bienvenue à l'âme sur cette terre. Donc c'est une cérémonie qui est très précieuse et qui a toute une symbolique de rituel de passage, en fait. Mmh. Donc ça permet déjà d'avoir une protection de la mère pendant le reste de la grossesse et de l'âme, donc, dans son processus d'incarnation. Mmh. Et ensuite, effectivement, alors aller au temple, bien sûr, alors après c'est dans la religion hindouiste ou tout simplement la spiritualité liée au bouddhisme aussi, on va retrouver cette notion de recevoir, enfin d'aller dans des endroits où il n'y a que des bons esprits, pour qu'elle puisse recevoir cette dose d'énergie divine et de protection. Mmh. Et ce, jusqu'à l'accouchement. Il y a des mantras qui existent, c'est vrai que je connais plus là pour le coup par rapport au bouddhisme, je sais qu'il existe des mantras à réciter avant l'accouchement pour être protégée. Mmh. Et que la femme peut répéter pendant l'accouchement. Mmh. Et ensuite, il y a aussi, donc là, un petit peu plus moderne, si on veut dire ça, le blessing way, qui est aussi une partie un peu avec une connotation de bienveillance, de spiritualité, pour protéger la femme aussi à l'approche de l'accouchement. Donc, c'est souvent au 8e mois, où là aussi, il y aura... des prières, des mantras récités.
Ouais, donc c'est très sacralisé finalement, bien plus que ce que j'imaginais. C'est vraiment très voilà, il y a une la femme finalement dans cette tradition là quand elle est enceinte, c'est vraiment c'est presque une divinité, quoi. Enfin, il y a c'est elle
fait,
est très protégée, elle est très très, très protégée.
Que la femme enceinte, il faut lui dérouler son tapis rouge. c'est tellement tellement précieux de transmettre la vie, d'être un peu le canal qui permet à cette vie d'un début de vie. Et c'est pour ça que c'est très très protégé. Elle est très protégée dans l'hindouisme. C'est le bébé Krishna, quoi. C'est comme si elle portait en elle le dieu. Et donc tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle reçoit va impacter la vie, future vie de cet enfant. Mmh. Donc, et c'est une des raisons pour laquelle, très humblement, j'ai fait ce choix de me spécialiser dans la maternité. C'était pour participer à un meilleur lendemain, à un meilleur avenir, à peut-être un futur plus humain, avec déjà une naissance plus humaine et une femme qui a été... protégée, qui a été sur son chemin de grossesse en conscience, un couple, bien sûr, on parle de la femme enceinte, mais c'est le couple, dans leur projet de maternité, de vivre et de traverser ce chemin avec les obstacles qu'il peut aussi parfois présenter, avec la foi, la conscience, et qui peuvent mettre dans la vie, dans cette... dans cette étoile,
oui,
qui les guide, on peut dire ça.
Aurélie, le temps nous est compté, c'est déjà la fin bientôt de l'émission.
Ouais.
Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage qui a apporté beaucoup. Est-ce que comment on peut toi te retrouver en fait si on veut en savoir un petit peu plus, si on veut être suivi aussi par toi pour tes massages, tes formations?
Oui.
C'est quoi, si on va directement sur... T'as un site internet?
Alors j'ai un site internet, oui, bien sûr, qui est donc tradition-ayurveda.
Tradition-ayurveda, très bien.
.fr.
Tradition-ayurveda.fr.
Voilà, donc je suis à Paris, effectivement, j'ai mon cabinet. Je reçois pour les consultations et donc les massages ayurvédiques, donc préconception jusqu'au postnatal, comme tu l'as très bien dit. Et je me déplace à domicile pour les femmes qui viennent d'accoucher, donc ça c'est précieux.
Ça c'est important,
là,
oui.
Juste après la naissance,
bien sûr.
Pour elles et pour le bébé. et le couple en tant que yoga doula aussi pour soutenir. Donc ça, c'est encore une autre dimension. La période, les 40 jours.
Ok, Aurélie Cross Vikrama, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est la fin donc de notre émission. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site de la radio et je vous dis à la semaine prochaine.
Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.